Radio Okapi.
À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il est urgent que les députés nationaux siègent en session extraordinaire, estime le député national Eliezer Ntambwe. Cela pour débattre de cette question préoccupante et proposer des solutions idoines, dit-il. Entre-temps, le secrétaire général de l'ONU appelle le M23 à cesser immédiatement son offensive et à se retirer de toutes les zones occupées. Promouvoir un Congo plus démocratique, inclusif, responsable et prospère, c'est l'une des missions de la deuxième phase du programme de civisme citoyen des jeunes en RDC, programme lancé hier à Kinshasa par l'ambassade des États-Unis en RDC. Et puis, l'invité de ce journal, Roger Ekongo, ministre provincial de l'Intérieur de la Tchopo, il nous parle des raisons du report de la cérémonie traditionnelle de réconciliation entre les communautés Mbole et Lingola en conflit, cérémonie initialement prévue le 20 janvier dernier. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. L'armée congolaise, appuyée par la force de la SADC, ont repoussé l'ennemi au-delà de la cité de Sake, 27 kilomètres au sud-ouest de Goma. C'est ce qu'a rapporté hier une dépêche de l'agence congolaise de presse, ACP, qui cite la cellule de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Alors que certaines rumeurs annonçaient l'occupation de la cité de Sake par la rébellion, les services de communication du gouverneur notent que le chef de l'exécutif provincial était au front. Le gouverneur du Nord Kivu a tenu à démentir aussi les rumeurs concernant sa possible fuite de la ville de Goma vers d'autres coins sécurisés, ajoute son service de communication. Entre-temps, le président de la République a tenu la nuit dernière une réunion de crise autour de la première ministre Judith Suminwa ainsi que les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense. C'est en prélude de la tenue aujourd'hui du Conseil supérieur de la Défense et de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ces deux réunions vont tabler au premier plan sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu et particulièrement autour de la ville de Goma, signale une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU appelle les rebelles du M23 à cesser immédiatement leur offensive et à se retirer de toutes les zones occupées, ce dans le respect de l'accord de cessez-le-feu du 31 juillet dernier. Il a lancé cet appel dans un communiqué parvenu hier à Radio Okapi. Antonio Guterres plaide ainsi pour le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ce communiqué rédigé depuis New York, le secrétaire général des Nations Unies condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive lancée par les M23 depuis le début de cette année et son extension au nord et au sud Kivu. Antonio Guterres a ainsi recommandé à tous les acteurs de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC en mettant fin à toute forme de soutien aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Il a également réaffirmé son soutien indéfectible aux efforts de paix déployés par le président angolais João Lourenço pour désamorcer les tensions entre Kinshasa et Kigali. Le secrétaire général de l'ONU a cependant exhorté les partis à rester engagés dans le processus de Luanda et à maintenir l'élan vers la neutralisation des FDLR et les retraits des forces rwandaises, ainsi que vers l'opérationnalisation rapide du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Il a en outre plaidé pour l'accès sans entrave aux populations ayant besoin d'une aide humanitaire en respectant les caractères civils des sites des personnes déplacées à l'intérieur de la RDC. Antonio Guterres a par ailleurs réaffirmé la détermination de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils.
Pour sa part, le député national Eliezer Ntambwe estime qu'il est urgent que les députés nationaux puissent siéger en session extraordinaire, cela pour débattre de cette question préoccupante de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et proposer des solutions idoines. On écoute Eliezer Ntambwe, élu de la circonscription de la Lukunga à Kinshasa. Il est joint par Blaise Ndongala Mayanda.
Je connais combien de moyens que l'État met à la disposition de la question sécuritaire. Je dois vous confirmer que tout ce que les Congos gagnent comme argent, au moins 70% de ce que nous gagnons va de l'autre côté. Je crois que chacun doit jouer son rôle. Si ça ne dépendait que de moi, les présidents de l'Assemblée devraient convoquer une session extraordinaire pour siéger sur la question. Je sais que le gouvernement est dans la diplomatie, dans la force militaire. Et de notre côté, en tant que parlementaire, on devrait se réunir pour lever les options. C'est pourquoi je profite de votre micro, de demander au peuple congolais de ne pas croire que la situation sécuritaire là ne concerne que les politiques. Parce que ceux qui sont en débandade aujourd'hui ne sont pas des politiques, c'est toute la population. Ceux qui meurent ne connaissent même pas la politique, c'est toute la population. Il est important que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire non à cette agression gratuite qu'on nous a imposée.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Ici, le chef du secteur de Beni Mbau demande à la population du groupement de Bambou Bakisiki de ne plus fréquenter les champs agricoles qui sont dans la profondeur de la forêt. C'est à la suite des attaques à répétition des rebelles des EDF dans cette entité. Cette autorité coutumière appelle également les habitants à collaborer avec les services de sécurité pour lutter contre l'insécurité dans cette région. Marc Marofimbo nous fait le point.
Depuis janvier de cette année, au moins 5 attaques attribuées aux rebelles des ADF ont été signalées dans les entités du groupement des Bambou Bakisiki, la zone la plus touchée et la partie est de ce groupement, considérée comme les greniers de la ville et du territoire de Beni. Au moins, ces civils ont perdu la vie dans ces différentes attaques, des dizaines de maisons incendiées, sans compter le nombre de dégâts matériels enregistrés. Face à cette situation, les chefs du secteur de Beni Mbau appellent la population à ne plus fréquenter les milieux qui ne sont pas sécurisés dans cette zone agricole. Jean Bosco Kasereka Malisava.
Les cris des boutines des ennemis se font attendre au niveau des Mapobo, Cécel, dans la brousse. Donc à l'est, le chef-lieu de groupement des Bambou Bakisiki. Les cultivateurs ont des soucis d'accès à leurs champs. Pour la population, de ne plus fréquenter les milieux qui sont insécurisés.
Jean Bosco Kasereka Malisava a par la même occasion salué la présence des casques bleus de la MONUSCO installés depuis la semaine dernière en Pau pour la protection des civils dans cette zone.
C'était donc un reportage de Marc Marofimbo rendu par Guylaine Kassassia. Autre nouvelle, promouvoir un Congo plus démocratique, inclusif, responsable et prospère, c'est l'une des missions de la deuxième phase du programme de civisme citoyen des jeunes en RDC, lancé hier à Kinshasa par l'ambassade des États-Unis en RDC. Ce programme encourage la participation active des jeunes à la démocratie et à la gouvernance à travers 14 provinces du pays. Ronéline Tibonera revient sur le bien fondé de ce programme.
C'est un programme audacieux visant à faire basculer le jeune Congolais du cadre d'observateur à celui d'acteur majeur dans le développement de leurs entités grâce à une collaboration entre eux et les élus, indique l'ambassadeur des USA en RDC, Lissi Tamlin.
Je sais qu'être un leader n'est pas toujours facile et je vous salue de votre engagement en faveur de l'amélioration de votre société.
De son côté, Trésor Kalonji, responsable du chapitre Est-Afrique de Yali, invite la jeunesse congolaise à saisir cette opportunité pour contribuer au changement dans le mode de gestion en RDC.
Tout le monde a des idées innovantes sur comment développer son entité, son quartier, sa communauté. Mais est-ce que les députés connaissent tout ça? Non. C'est pour cela que vous devez aller avec ces députés, avec ces conseillers, pour leur dire « Moi, je suis un jeune de telle commune, de telle avenue. Voici l'idée innovante que j'ai pour développer mon entité. Est-ce que on ne peut pas prendre cela en compte. »
Pour y arriver, Belinda Bondo, garante du programme dans la ville de Kinshasa et représentante du cercle ouest du pays, revient sur certaines activités projetées.
Les focus groups, les programmes de design thinking et les engagements.
Le programme American Species Civic Engagement Post-Election a été lancé en août 2023 pour une année de 4 ans. Pour sa première phase, au moins 150 000 jeunes leaders ont été touchés dans 14 provinces du pays.
Dans l'actualité aussi, des personnes vivant avec handicap réunies au sein de plusieurs associations ont déposé hier une plainte au parquet près la Cour de cassation contre le député Eliezer Ntambwe, à qui elles reprochent notamment le dénigrement à leur égard. L'incriminé rejette en bloc ces accusations portées contre lui, alors que le procureur Firmin Mvonde promet de tout faire pour que les responsabilités soient établies dans cette affaire. Explication avec Blaise Ndongalamende.
Ces personnes vivant avec handicap disent avoir été en justice contre cet élu de la Lukunga pour plusieurs greffes dont leur manipulation et dénigrement. Elles lui reprochent également d'avoir posé des actes allant dans le sens d'entraver les actions de leur ministère, comme explique l'un d'eux.
Il a poussé sa mauvaise foi plus loin en organisant une manifestation publique contre notre ministère qui s'est soldée par l'agression des conseillers de notre ministre.
Le député incriminé a balayé du revers de la main toutes les accusations portées contre lui. Il a cependant affirmé entretenir des bonnes relations avec des personnes vivant avec handicap pour qui il s'est toujours battu pour leur autonomisation. Eliezer Tamboué.
Entre moi et les personnes vivant avec handicap, il n'y a rien. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est le contraire. Et je ne peux même pas les en vouloir. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Je continuerai à garder la même considération que j'ai pour eux.
De son côté, le procureur général près la Cour de cassation a promis de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies dans cette affaire.
Je suis content de vous voir venir chez nous avec la... Nous allons suivre la procédure comme il faut, sans y mettre la passion. Je dis que personne n'est au-dessus de la loi.
Il est par ailleurs demandé aux personnes vivant avec handicap de passer à ces parquets dans les jours qui suivent pour confirmer leur plainte.
Rendons-nous dans la province du Maniema. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a effectué une tournée dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Kindu le mercredi. Il était question pour Marie-Thérèse Sombo de palper du doigt les forces et les faiblesses de ces institutions au Maniema. À l'issue de cette visite, la patronne de l'ESU promet de faire rapport à la hiérarchie. Florence Kizalunga, reportage.
Plusieurs problèmes en rapport avec le fonctionnement des institutions du Maniema et de son personnel, voire même des étudiants, ont été présentés à la ministre. Le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Maniema croit avoir été écouté, professeur de Kassas Kimenia.
Nous avons présenté beaucoup de problèmes. Madame Son Excellence la ministre nous a écoutés. Elle a pris bonne note. Comme vous savez, le gouvernement de la République ne donne pas de réponse aux préoccupations de demandeurs directement. Elle a écouté. Elle va répondre le moment venu.
Le responsable de ces universités se réjouit de cette visite de la ministre. L'un d'eux, professeur Patrick Mobambo de l'université Mapon.
C'est notre chef et nous sommes contents qu'elle vienne voir ce que nous faisons. Le plus important est qu'elle a apprécié. La seule garantie est que le travail va se faire dans la perfection. Qu'elle ne sera jamais déçue.
Les étudiants également saluent le passage de la ministre dans leurs institutions. Catherine Kibali.
La ministre est passée dans notre université. D'abord, c'est un immense honneur. C'est une considération envers notre université. Elle nous a dit qu'on doit être trop discipliné.
La ministre a clôturé sa mission ce jeudi 23 janvier à Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
Pendant ce temps, au Congo central, les chefs d'établissement du primaire et ceux du secondaire de la sous-division Madimba 1 sont appelés à travailler suivant les instructions du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Objectif, les amener à produire un travail de qualité sur terrain. Cet appel a été lancé hier par les nouveaux dirigeants de la province éducationnelle Congo central 3. C'était au cours de leur première réunion de prise de contact avec les chefs d'établissement. Nana Plurich Mambou, reportage.
Cette première réunion de prise de contact a permis au nouveau Proved et à l'inspecteur principal provincial du Congo Central 3 de transmettre les instructions et les plans de travail émanant du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté aux chefs d'établissement du primaire et du secondaire de la sous-division Madimba 1. Pour les directeurs de la province éducationnelle, le bon suivi de ces plans par les chefs d'établissement est un gage d'un travail de qualité sur terrain. Anaclet Inkula.
Nous avons mis à leur disposition le plan quinquennal et nous leur avons dit que nos actions doivent s'inscrire dans le cadre de ce plan quinquennal.
Le nouvel inspecteur principal provincial, lui, tient mordicus à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers un contrôle régulier des documents pédagogiques de chaque enseignant. Ben Benkelenge.
On ne peut jamais améliorer la qualité de l'enseignement tant que le chef d'établissement ne contrôle pas régulièrement les documents pédagogiques tenus par l'enseignant pour déceler les failles. Et ce n'est qu'en décelant les failles qu'on peut encadrer l'enseignant pour s'améliorer.
La prochaine réunion de ce genre est prévue dans les prochains jours avec les chefs d'établissement de la sous-division Kasangulu 1. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Ituri, le cadre de concertation de la société civile sur les ressources naturelles, demande au gouvernement de sursoir à sa décision sur l'exploitation du pétrole au lac Albert et Édouard vers la partie est du pays. Cette structure a organisé mercredi une marche pacifique à Bounia pour dénoncer cette démarche dans le cadre de la campagne dénommée « Notre terre sans pétrole ». Le point focal de cette plateforme a déposé un mémorandum au gouvernorat de province à ce sujet. Et on écoute Dieudonné Kassodien au micro de Ézéchiel Mouzalia.
Comme vous le savez bien, le projet RACOP, c'est un projet qui unit la RDC, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie pour construire un pipeline qui va prendre le pétrole du lac Albert, du lac Édouard et de Tanganyika conduire vers Tanzanie. Cet accord était secret et constitue une menace directe pour le climat, l'environnement et la communauté locale. Nous pensons que ces gisements de pétrole entre la RDC et l'Ouganda constitueraient une menace grave sur l'écosystème et sur les parcs de Virunga. Et comme vous le saviez, le même pétrole a constitué un conflit entre la RDC et l'Ouganda dans les années passées. Et réactiver ce genre d'accord créerait cette tension. Il y a des peuples élevés au bord du lac, que ce soit dans la plaine de Semiliki, tout comme dans la plaine de lac Albert, du côté Maagi, du côté Njugu, Irumu. Là aussi, nous allons perdre nos pâturages à cause du pétrole.
Actualité internationale.
Affamés, déshydratés et désespérés, les centaines de mineurs illégaux pris au piège dans un puits de mine en Afrique du Sud ont été sauvés par une cage munie d'une caméra ayant atteint 1280 mètres sous terre. Le groupe d'adolescents s'était né debout sur un niveau, attendant manifestement l'arrivée des secours pour les sortir de ce calvaire.
L'invité.
La cérémonie traditionnelle de réconciliation entre les communautés Mbole et Lingola dans la Tchopo n'a pas été organisée le 20 janvier courant comme initialement décidé par le Forum de paix et de réconciliation, forum organisé à Kisangani du 17 au 19 décembre dernier. Pourquoi? Réponse avec le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Roger Ekongo, est avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, bonjour.
Bonjour.
La date du 20 est passée, qui avait été fixée pour la cérémonie coutumière entre les communautés en conflit Mbole et Lingola. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Effectivement, comme vous dites, la date du 20 janvier est passée. Au regard du rapport qui a été établi par la commission mixte du gouvernement central et le gouvernement provincial, il était question qu'on puisse répartir des responsabilités et des tâches.
Et comment ça a été fait?
Pour nous, au niveau du gouvernement provincial. En ce délai-là, vous voyez, la commission préparatoire a fini son travail pratique le 11. Pour arriver au 20, les délais étaient assez courts, voyez-vous. Il était question pour la province ici, pour le gouvernement provincial, de procéder très vite à l'aménagement du site et à l'entretien du site qui était choisi, notamment l'agglomération des Osio. On devait aussi procéder à l'entretien du tronçon entre le Bunga et Osio. Mais également, on devait aussi renforcer la sensibilisation au niveau de la ville et au niveau des communautés parties prenantes pour que les gens puissent être sensibilisés par rapport à cet événement important. Il était question aussi de mettre sur pied un dispositif du protocole de façon à concevoir le programme ainsi que les contenus de la journée où le rituel aura lieu. On est en train de travailler sur ça.
Êtes-vous en contact avec le cabinet du VPM de l'Intérieur?
Tout récemment ici, on venait de recevoir les télégrammes de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour que nous puissions réévaluer l'engagement que nous avons pris au début du mois, pour que finalement qu'on puisse fixer une date réaliste et qui va permettre à ce que ces rituels, la réconciliation entre les deux communautés Mbole et Lingola puissent avoir lieu. Je crois qu'on est en train de travailler sur ça.
Et Monsieur le ministre, on aurait dû prendre des dispositions bien avant pour que la date soit respectée, parce que cette date avait été fixée lors du forum de paix et de réconciliation.
Ça s'est coïncidé avec l'agenda de l'autorité provinciale ici. Alors, bien que c'est là, mais l'équipe qui l'a laissé sur place, est en train de travailler. Je crois que nous aurons une grande rencontre où ceux de la commission ainsi que le service, nous allons nous retrouver au cabinet de son excellence monsieur le gouverneur pour qu'on puisse réactiver, faisant suite en fait à la demande de son excellence monsieur le VPM, de façon que cette fois-ci, une fois si nous réévaluons les tâches à faire, on arrivera à une date et nous allons communiquer ça à l'autorité hiérarchique à Kinshasa.
Monsieur le ministre, sait-on aujourd'hui qui parmi les chefs devra participer à ce rituel?
Nous avons demandé aux autorités traditionnelles des deux territoires, notamment au Bundu et au Pala, de nous envoyer la liste, n'est-ce pas, des chefs coutumiers reconnus pour que nous puissions lancer les invitations. Donc, le processus est déjà enclenché. Je crois que il est question seulement de patienter quelques 48 heures ou 72 heures pour que finalement la date définitive soit fixée.
Est-ce que la population est prête aujourd'hui à accueillir cette cérémonie?
Oui, depuis les forums, je pense que si on a tenu les forums, c'est que finalement, les communautés qui étaient d'abord en conflit avaient compris la nécessité de faire la paix et de revenir à une cohabitation pacifique. Et donc, il est question pour nous, au niveau de la province, de renforcer cette sensibilisation en associant les responsables des communautés ainsi que les autres leaders pour que finalement, le message de la paix et de la réconciliation, du pardon, et de la vie en commun puisse arriver au fin fond du territoire d'Opala et le territoire d'Ubundu. Et que finalement, lorsque nous allons arriver à ces rituels de réconciliation, après qu'on apprenne plus que non, il y a eu des atrocités ou il y a eu des problèmes par-ci par-là.
Monsieur le ministre, il avait été dit au forum que avant la cérémonie de réconciliation, les déplacés qui se trouvent à Kisangani devaient être pris en charge. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Oui, au niveau de la commission, on va sélectionner un échantillon pour symboliser les retours. Parce que, vous savez, messieurs les journalistes, les retours de ces familles, de ce ménage, ne va pas se faire à travers seulement une simple déclaration. Il faut préparer une trousse. Et donc, nous sommes mis d'accord avec le gouvernement central pour que un échantillon par site soit sélectionné pour que on disponibilise les trousses de retour de déplacés. Une fois si cette première étape de retour se réalise, finalement, on pourra voir comment amorcer les retours progressifs des nos compatriotes dans leurs milieux d'origine.
Monsieur le ministre, merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.